De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, actualité cinéma et jeux. Aujourd'hui, Cinérama va vous parler de films qui sont en salle depuis le 5 et 12 juin. Et on va parler dans cette première partie de l'émission de films qui mettent en scène bien plutôt des jeunes et des adolescents, Marine.
Oui, moi pour ma part, je vais vous parler d'un film israélien qui s'appelle Un Havre de paix et un film italien qui s'appelle Piranha et qui parle notamment des très jeunes mafieux en fait à Naples.
Et toi aussi, la jeunesse, Manu?
À travers une comédie québécoise, Charlotte a 17 ans, de Sophie Lorrain. Et puis, je vous dirai un petit mot d'une reprise, Le professeur de Valerio Zurlini avec Alain Delon.
Et puis moi, je vous parlerai de Zombie Child. C'est là où il y a des jeunes filles qui sont dans un pensionnat. Et puis, je vous parlerai aussi de Men in Black International. C'est le 4e opus de Men in Black. Et ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test où il faudra écouter 5 extraits de films dans lesquels il y a des extraterrestres qui sont soit petits, soit grands, soit méchants, soit gentils. Ainsi débute Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors Piranha en fait est adapté d'un livre de Roberto Saviano, à qui on doit déjà Gomorra, qui avait également été adapté au cinéma, et dans lequel il racontait donc la mafia de Naples, ce qui lui a valu quelques problèmes. Grosso modo, le mec vivra sous protection policière jusqu'à la fin de sa vie, et ça l'a pas empêché de réitérer avec un autre livre dans lequel il raconte à quel point l'âge des apprentis criminels napolitains a fortement baissé ces dernières années, puisqu'il y a en fait toute une nouvelle génération de bébés mafieux qui ont entre 10 et 15 ans, qui se regroupent par gangs, qui n'ont pas encore de barbe mais qui ont déjà des armes, qui vouent un culte aux mafieux locaux comme si c'était des personnages de jeux vidéo et qui apprennent justement à manier des armes de guerre en regardant des tutos YouTube.
Perché il sistema sta manie creature, ma posti la pistola in da casa mia, annaggia figlia mia la pistola.
Alors le film est réalisé par Claudio Giovanesi, qui ça suit l'itinéraire finalement en fait d'une bande d'ados qui va petit à petit prendre la place des adultes dans le crime organisé. Alors le film est très documenté dans sa première partie, la réalisation est très nerveuse avec une caméra épaule qui se colle au personnage. On est même d'ailleurs en fait dans une esthétique très documentaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend justement plein de choses, comme par exemple que de couper des barrettes de fil pendant 30 ans, ça crée des cales aux mains. Comme ça, si vous voulez vous lancer un jour, vous le saurez. Et justement, on se demande dans cette première partie si le film va dépasser l'aspect purement documentaire et réussir à raconter quelque chose. Et en effet, il y parvient dans la seconde partie au cours de laquelle le film gagne vraiment, vraiment en intensité narrative. Même la mise en scène évolue. Les plans sont plus recherchés, plus stylisés. Et ça empêche le film de s'essouffler. Ce qui est aussi intéressant dans Piranha, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer le côté universel de cette histoire. Il y a beaucoup de similitudes avec les problèmes que l'on peut trouver dans les banlieues françaises. Dans Piranha, les personnages ont l'impression, en ayant grandi dans un environnement à la fois pauvre et très fermé, de n'avoir que deux choix, c'est-à-dire vendre de la drogue ou devenir footballeur, un peu comme dans certaines banlieues françaises. Et dans sa structure et son évolution, Piranha fait penser justement à certains films comme Chouf de Karim Dridi ou comme Divine, dans le sens où on sent que ça va mal finir. Et justement, ici, moi, j'ai été assez impressionnée par la fin de Piranha, une fin qui est fine et qui est forte. Pour une fois, c'est rare, le film sait s'arrêter au parfait moment. Le plan de fin est parfaitement choisi et ça donne une intensité assez folle au film. Et alors, deuxième point intéressant pour terminer, le film réussit à rendre ses personnages, qui sont quand même globalement des tataclaques, il réussit à les rendre très attachants et il réussit, alors qu'il s'agit d'un film sur un groupe, à donner avec très peu d'action, très peu de dialogue, une individualité à chacun de ses personnages, ce qui est vraiment pas évident, je pense. Voilà, c'est un film.
Un travail de mise en scène.
Et un très bon travail de mise en scène. Voilà. Je pense que le film n'est pas sorti dans énormément de salles. Il n'a pas beaucoup de projections, mais je le recommande vraiment si vous parvenez à le voir. Il a eu pas mal de prix également.
Oui, nous parlions de Piranha et donc on peut aussi voir Gomorra qui se passe aussi à Naples et qui était aussi un film fort avec une très bonne mise en scène.
Tout à fait, dans tous les vidéoclubs.
qui existe encore peut-être. On va se mettre à la recherche de Vidéoclub. Encore des zombies, mais ceux des origines avec Zombie Shy de Bertrand Bonello, c'est tout de suite.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Les zombies furent une image récurrente pendant le dernier festival de Cannes avec au moins deux films de la compétition qui les ont mis en scène dans une posture comique pour Jim Jarmusch et dramatique pour Mati Diop hein, pour son film Atlantique qui a reçu le Grand Prix. Ailleurs, dans la sélection de la quinzaine des réalisateurs, nous avons pu voir un autre film avec des zombies, celui de Bertrand Bonello, le bien nommé Zombie Child, bien nommé parce que d'une part on y voit des zombies et d'autre part des enfants, ou plus exactement eh bien des jeunes filles qui suivent une scolarité dans un pensionnat de jeunes filles. Le film de Bertrand Bonello traite ouvertement des zombies, mais il n'en reprend pas la forme hollywoodienne. Ici, le zombie du titre s'écrit sans E à la fin. Ici, la forme du zombie est prise à sa source en Haïti. Le film s'ouvre sur une séquence captivante, celle d'une précipitation d'un homme. Alors, il s'appelle Clervius Narcisse dans le monde des zombies. Un monde où il n'est ni mort ni vivant. Et s'il y est précipité, c'est par d'autres. S'il meurt avant tout, c'est pour être repris, sitôt enterré, et puis être envoyé eh bien, dans un champ de canne à sucre avec un troupeau de zombies comme lui. Plongés dans l'obscurité, grommelant ou grognant, les zombies sont ici comparables à des esclaves. Celui que Bertrand Bonello nous laisse voir va pouvoir, au gré d'une cuisse de poulet passée à sa portée, eh bien, se redécouvrir homme. Parce qu'il y a quelques règles, je crois qu'on peut manger des cacahuètes ou manger de la viande, et à ce moment-là, on n'est plus zombie. Eh oui, Manu.
Non, c'est la première fois que j'entends ça. Ça,
eh ben, écoute, ça peut servir, ça aussi. Je me suis renseigné. Alors, donc, si dans ces cas-là, le zombie n'a d'autre choix que de mourir tout à fait ou vivre, eh bien, celui de Zombie Child, qui meurt en 62, fait des allers-retours entre la montagne et la ville, mais ne réapparaîtra aux yeux même de sa femme que bien des années après.
J'habite avec ma tante. Elle est mon beau.
C'est quoi mon beau ? C'est danseuse ?
Non. C'est mon beau. Mon grand-père est mort en 1962. Il a été victime de zombification. Il s'enfuit. Il a erré.
Elle fait des bruits hyper chelous cette nuit.
Ah ouais ?
Mais Zombie Child ne nous propose pas seulement de nous immerger en Haïti dans les années 60 et de veiller à nous placer dans un contexte d'esclavage. Il nous immerge aussi dans le 21e siècle, dans une période indéterminée, auprès de jeunes filles scolarisées, dont l'une d'entre elles, tient, eh bien, comme par hasard, est haïtienne. On l'a entendu dans l'extrait juste avant. Alors, elle, eh bien, elle semble aussi parfois possédée par un esprit vaudou. Et donc, voilà, bon, on a les quelques pistes qui nous renvoient eh bien, de la France à Haïti. Et puis, une autre de ces filles nous semble juste possédée par un garçon réel ou imaginaire, romantique. On connaît la teneur des messages qu'elle envoie eh bien, à son amoureux qu'elle brûle de revoir. Zombie Child ne fait rien d'autre que de confronter ces deux récits qui se répondent en écho. Celle d'un homme qui va retourner vers les vivants et celle d'une peine de cœur. Zombie Child est avant tout théorique. Bonello nous place dans la description, celle d'Haïti à différentes époques et celle de l'établissement de jeunes filles qui existe vraiment, il est donc à Saint-Denis. On y suit la rigueur, les rituels et même les enseignements, notamment les cours de l'historien Patrick Boucheron qui nous cause des deux courants du libéralisme au 19e siècle et de l'expérience de la liberté dans l'histoire. C'est un vrai cours, visiblement totalement improvisé. Autant dire que Bonello prend des libertés et c'est précisément ce qui fait un bien fou par rapport à la somme de films qui sortent sans aucune originalité. Les deux parties sont très documentées, à la fois fictionnelles. Il y a l'histoire du zombie qui est celle qui a été rapportée donc dans différents ouvrages. Et puis il y a celle du lycée qui existe vraiment. Ce sont des filles en fait qui sont issues de familles dont les parents ont reçu la Légion d'honneur. C'est Haïti, évidemment, que l'on voit avec ses rites, sa culture du vaudou et son passé esclavagiste, mais c'est aussi la France avec d'autres préoccupations, la reproduction des élites, avec des règlements déconnectés de la vie des adolescentes qui les suivent. Celles-ci n'ont qu'une envie, outrepasser les règles, avec en ligne de mire, eh bien, pourquoi pas, le vaudou.
Elle est chelou quand même. C'est bien les gens chelous. Puis j'aime bien comment elle danse, moi.
Tu parles de qui, là ? Tu regardes quelle vidéo ?
Non, Mélissa.
Elle est où, là ?
Là-bas.
Enfin, meuf, on s'en fout que t'aimes bien comment elle danse, hein. C'est une sororité littéraire, je te rappelle. Le truc important, c'est est-ce qu'elle est suffisamment cool pour être avec nous, c'est tout.
Tu l'as vue danser où ? Hier, dans la classe, mais elle m'a pas vue, elle était toute seule.
C'était quoi la musique ?
On n'avait pas.
Ah ouais, ouais. Carré. Non, attends, la meuf, elle danse sans musique ? Non, mais je te dis, elle est trop chelou.
Moi, je trouve ça cool.
Donc du coup, on la prend, on la prend pas ? Non, mais sérieux, attends, elle est cool ou elle est chelou ?
Moi, je trouve qu'elle est cool.
Moi, je pense qu'elle est chelou.
Enfin, en plus, elle parle tout doucement, elle est tout le temps toute seule.
Ouais, c'est pas vrai, elle est souvent avec moi. Enfin,
toi aussi, t'es chelou.
Ouais, mais en même temps, quand tu vois tous les bolos scato ici, je comprends que t'as envie d'être seule. Ça la rend plutôt cool.
Alors là, il est question de la sororité littéraire. Il s'agit donc d'accepter ou pas la jeune haïtienne dans le groupe des quatre jeunes filles. On l'entend aussi, c'est plutôt du naturalisme. Il y a des dialogues qui sont alors au goût du jour, semble-t-il, puisque c'est la fille du réalisateur qui a remodelé tout ça parce qu'il avait employé des tournures un peu vieillottes pour le discours des adolescentes. Le réalisateur de Saint-Laurent et Nocturama va faire basculer donc ces deux univers dans une séquence hallucinée, digne du genre, où le récit jusqu'alors posé s'enflamme, un coup de force qui éclaire cette histoire simple, qui n'envoie pas les zombies à la trousse des vivants, mais qui interroge notre rapport au monde, à l'absence, à la transmission et à l'héritage. Alors il n'y a aucune réponse, juste des pistes offertes par le réalisateur, et c'est ça qui finalement est bien, parce que c'est un vrai objet cinématographique. Tu voulais ajouter quelque chose,
Manu ? Oui, parce que, alors je ne l'ai pas vu, mais vu son amour du genre, et surtout que le film revient en fait à la source, donc à Haïti, à mon avis, il rend quand même hommage au film de Jacques Tourneur qui s'appelle oui. Vaudou et qui en plus a l'air de traiter quand même de sujets assez similaires, et qui en plus a peut-être pour moi le meilleur film de zombies de tous les temps.
Alors il se souvenait des films de Romero évidemment, mais il a vu le film de Jacques Tourneur avant de tourner Zombie.
C'est un film de 42 en fait, je crois.
Je suis une amie de Mélissa. Vous faites du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre.
Il faut pas prendre ça à la légère.
Encore des adolescentes, mais cette fois-ci québécoises pour Charlotte à 17 ans.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Samuel, c'est un gars incroyable puis sensible. C'est mon âme sœur, puis je vais toujours l'aimer.
Faut qu'on se parle.
Fuck you, Samuel Fortin !
Eh oui, vous avez reconnu l'accent québécois et oui. Je pense qu'il vaut mieux. Alors, je ne sais pas s'il est distribué en salle sous-titrée, mais je l'ai vu sous-titré.
La bande-annonce est sous-titrée, en
oui,
tout cas.
Donc, oui, je pense que oui. Alors, la jolie et pétillante Charlotte doit se rendre à l'évidence. Son petit copain du moment est gay. La rupture est inévitable, mais pour Charlotte, alors c'est tout un édifice qui s'écroule. Hein. Si on n'est pas sérieux à 17 ans, en revanche, on prend tout au sérieux à cet âge-là. Alors, la jeune fille va se saouler, fumer des bangs avec ses deux amis, hein, Aube et Megan. Pour elle, sa vie est foutue à cet instant. Alors à quoi bon continuer si l'amour de votre vie est un homosexuel ? Alors triste, mais quand même plein d'entrain, Charlotte trouve un petit boulot temporaire en compagnie de ses amis dans un magasin de jouets en période de fête. Les jeunes vendeurs, alors comme par hasard, sont tous de charmants garçons.
Hétéros
et un look de mannequin. C'est très volontaire. Hein. Pour oublier son chagrin, Charlotte alors enchaîne les conquêtes sans lendemain et surtout sans réfléchir à un quelconque impact. Mais elle se fait rattraper par la rumeur. Alors que penser d'une fille qui s'est amusée avec presque tous les employés de la boîte, hein, une boîte en plus un magasin de jouets. Alors on lâche le mot qui se profile du bout des lèvres par certaines personnes. C'est une salope. Alors les temps changent, mais les clichés sur les rapports hommes-femmes perdurent. Donc, Charlotte a un plan pour contrecarrer le regard des autres enraciné dans une forme d'archaïsme. Elle décide de devenir abstinente et d'entraîner son entourage féminin dans sa quête. Alors attention, ne vous méprenez pas, Charlotte a 17 ans, dont le premier titre québécois était « Salope » dans le bon sens du terme. Puis, Charlotte a du fun, et puis ça arrive chez nous sous le titre « Charlotte a 17 ans ».
C'est une grosse litote.
Voilà. Alors, le film n'a rien d'une chronique sociale sur la jeunesse contemporaine, assénant un discours didactique et féministe. Le propos est ailleurs, même s'il y a un petit côté engagé derrière, mais c'est assez léger. Actrice aperçue donc, chez Denis Arcand, notamment, hein, Sophie Laurin signe après Les Grandes Chaleurs un second long métrage d'une fraîcheur juvénile à contre-courant de la production cinématographique contemporaine à 60 ans. Je dis l'âge parce qu'on dirait que c'est réalisé par une jeune fille de 20 ans, en fait. La cinéaste semble être tombée dans une fontaine de jouvence, tant son film respire la jeunesse, l'innocence et une folie contagieuse.
C'est quoi le plan, là ?
Vive l'abstinence !
Ça va tout foquer la dynamique de groupe, ça, là.
Écoute, Charlotte, je suis pas une espèce de prince charmant qui va venir régler tous tes problèmes.
Tu vas être abstinente, mais tu vas continuer à te mettre, genre, belle. Tu devrais t'en foutre d'être belle. Ça, c'est libérateur pour vrai.
Alors, passé le plaisir immédiat de découvrir un film québécois anachronique à plus d'un titre, il convient de revenir surtout sur l'admirable travail de mise en scène, conférant au projet sa force centrale. Alors, dès l'ouverture, une question quand même se profile. Alors, pourquoi tourner en noir et blanc une œuvre en prise avec l'air du temps, ancrée en apparence dans une contemporanéité bien installée? Alors, il ne s'agit ni de minauderie publicitaire, ni de gestes artistiques expérimentaux, mais d'un vrai choix esthétique, instaurant une distance, voire même, on dirait, plutôt une déconnexion avec le réel, pour investir un autre réel, qui est plus centré autour des sentiments. Alors, cette fuite de la réalité, de l'ancrage social, passe par un travail admirable sur la composition du cadre, extrêmement étudié, par la fluidité du montage et des mouvements de caméra, créant une rythmique saisissante, scandée par le charme des dialogues brillants qui mettent en valeur le charme fou de l'accent québécois, qui n'avait jamais semblé d'ailleurs aussi poétique, presque musical. Sophie Lorrain a créé des situations ubuesques par la grâce de l'écriture, alors convoquant le cinéma burlesque, les va-et-vient étourdissants des personnages dans le magasin de jouets, alors sorte de monde-bulle évoluant dans un espace-temps poreux, ravive l'esprit ludique d'un grand cinéaste de l'adolescence, décédé maintenant il y a plus de 10 ans, qui s'appelait John Hughes, qui est auteur d'une petite poignée de petits chefs-d'œuvre comme Breakfast Club. Alors, comme chez Hughes, Sophie Lorrain possède l'art de croquer le portrait d'une jeunesse insouciante, brûlant d'énergie, en évitant de poser sur elle un regard complaisant ou condescendant. Évidemment, les temps changent un peu, le discours prude, mais pas puritain, de John Hughes laisse place à une vision moderne et joyeuse du sexe et des sentiments amoureux. Mais au fond, le regard plein de tendresse est assez proche. Alors, emporté par une troupe de comédiens investis, tous remarquables, qui font corps avec la mise en scène, comme dans une comédie musicale, Charlotte à 17 ans est un film lumineux et intemporel, qui pourrait ravir aussi bien les jeunes d'aujourd'hui que les quadragénaires qui ont été bercés par des comédies comme 16 bougies pour Sam ou Breakfast Club ou encore La folle journée de Ferry Bueller.
Et bien voilà, ça fait 3 films donc avec la jeunesse qui est mise en scène, qu'on a plutôt apprécié, qui sont en salle et qu'on a apprécié effectivement, et les choses se gâtent avec Men in Black International, mais qui va nous donner l'occasion de jouer un blind test.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, à la fois spin-off et reboot du Men in Black qu'on a déjà connu par 3 fois, Men in Black International est depuis le 12 juin en salle. Exit Will Smith et Tommy Lee Jones. Souhaitons la bienvenue à Chris Hemsworth et Tessa Thompson qui se sont déjà croisés sur d'autres plateaux de tournage pour interpréter des super-héros. Alors là, ils n'en sont pas, mais sont des super-agents. L'ambition de ce nouvel opus de la franchise Men in Black est de rafraîchir la mémoire à tout le monde en mettant le monde de ces agents, dont la mission est de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre, et de réguler l'immigration intergalactique quand même sur notre planète au goût du jour. Voilà, c'est ça l'objet, donc de mettre au goût du jour. Pas étonnant donc que les producteurs aient misé sur un duo homme-femme plutôt que l'habituel paire d'agents masculins. Et en y regardant de plus près, l'homme de ce duo, Chris Hemsworth, est un beau gosse arrogant et vaguement idiot qui va même jusqu'à fricoter avec la pègre extraterrestre pourvu qu'elle soit femelle, quand le personnage de Tessa Thompson est une stagiaire méritante, intelligente, vive et qui a mis la relation amoureuse et sexuelle de côté parce que la passion est instable et détourne l'individu des grandes tâches de son existence. Et son envie, amollie, donc le personnage de Tessa Thompson, eh bien, c'est d'approcher le grand secret de l'univers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle veut se faire embaucher par les Men in Black et elle y parvient. Alors tout un programme, mais pas si évident quand on est agent aux frontières, fût-elle extraterrestre, ses frontières. D'autant que nous sommes confrontés à des créatures venues de l'espace qui peuvent alors être ou soit méchantes et belliqueuses ou trop gentilles, voire très trop gentilles. Bref, un condensé d'humanité. Rien à apprendre de ce côté-là, d'autant que s'il existe une menace extraterrestre, eh bien elle est renforcée. Et c'est l'histoire qu'on nous raconte dans ce 4e opus par la présence d'une taupe dans le service des Men in Black. Le scénario est un peu balourd et la mise en scène n'arrange rien quand il s'agit de nous montrer la taupe idéale qui n'a donc plus rien d'idéal. Aucune surprise n'est vraiment à attendre de ce blockbuster qui se laisse pourtant regarder. L'essentiel repose sur le duo d'agents et les personnages auxquels sont ajoutés quelques personnages truculents. Alors à part ou de bon coup, l'humour tombe souvent à plat, ce qui range ce 4e volet de la série dans le registre des films tout public et tout rayon culturel. Alors n'y a-t-il pas international dans le titre? On navigue d'ailleurs entre Londres, Paris, mais auprès d'une vieille tour Eiffel, vraiment, vraiment plein de poussière. Et puis, on va aussi à Naples et Marrakech. Alors, Men in Black est aussi une galerie de monstres qui véhicule encore cette idée que plus on est hideux, plus on est animé des pires intentions. Alors, sauf à être petit, parce que lorsqu'on est petit, eh bien, c'est le côté mignon qui préside. Alors, c'est dommage de se donner autant de peine avec l'animation et le dessin, plutôt réussi, de ces extraterrestres pour ne pas exploiter pleinement un caractère. Aucun extraterrestre ne va donner du fil à retordre aux humains, si ce n'est sur le terrain de la violence. Bon, ça, c'est un peu dommage. Il y a aussi un personnage extraterrestre un peu amusant Mais comme je le dis, l'humour tombe un peu à plat. Voilà, Men in Black International, c'est par le réalisateur du dernier...
F. Gary Gray, je crois que c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Du dernier La course de voiture que tu vas voir.
Ah, c'est...
J'en ai vu au cas à chaque fois.
Fast and Furious.
Fast and Furious,
la course de voiture.
La course de voiture. C'est une course de voiture pour moi. Hein. Ça ne se limite qu'à ça. Voilà, donc ça nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial extraterrestre dans les films. Ça va être très très facile, j'imagine, première.
Leur saleté de village est plantée, comme par hasard, sur le plus gros gisement d'unobtanium qu'on ait trouvé à des kilomètres à la ronde. Non, mais regardez ce tas d'oseilles.
Et qui va les convaincre?
Devinez.
Et s'ils veulent pas bouger?
Oh, ça m'étonnerait qu'ils refusent.
Ok. Écoutez. Le fait de tuer des indigènes est mal vu. Mais il y a une chose que les actionnaires craignent plus qu'une mauvaise campagne de presse. C'est un bilan financier en déficit. C'est pas moi qui fixe les règles. Alors trouvez-moi une carotte qui les incite à bouger. Sinon, ce sera grand coup de trick.
Alors, c'est trouvé.
Mais pour une fois que je trouve avant Manu, mais moi je suis ravie, c'était Avatar.
Oui, film de James Cameron de 2009 où les hommes vont sur une planète pour prendre le minerai. Allez, maintenant, ce sont des extraterrestres un peu méchants.
On chiote les médias. Il s'agit d'une situation très délicate qui doit demeurer top secret. Et l'armée devrait tout de suite prendre les mesures qui s'imposent.
Monsieur le Président, c'est une occasion en or.
Général Kessé, est-ce que vous avez une opinion?
Bien, écoutez, sommes-nous sûrs qu'ils soient hostiles?
Mais comment ça, s'ils sont hostiles? Monsieur le Président, ils encerclent notre planète avec des milliers de vaisseaux de guerre.
Qui nous dit que ce sont des vaisseaux de guerre, monsieur?
Professeur... Que savons-nous de ces visiteurs?
Eh bien, technologiquement, ils sont très en avance, ce qui suggérerait, sans aucune équivoque, qu'ils sont pacifiques. Une civilisation qui est si avancée n'est pas, c'est une évidence, du tout barbare.
On verra qu'il y a équivoque et que l'évidence n'était pas si flagrante.
Ouais, c'est de Mars Attacks.
Oui, alors, ce film de 97 de Tim Burton. Allez, un autre extrait.
Je repars bientôt. Et vous m'excuserez si je vous parle crûment. L'univers se rétrécit chaque jour, et toute menace d'agression de la part d'un groupe, quel qu'il soit, ne peut plus être tolérée. La sécurité doit être pour tous, ou elle n'existe pour personne. Cela n'implique l'abdication d'aucune liberté, sauf la liberté d'agir avec malveillance. Vos ancêtres le savaient bien, puisqu'ils firent des lois pour se gouverner et formèrent une police pour les appliquer.
Bon, c'est la grosse leçon de morale, là, hein.
Le jour où la Terre s'arrêta. Et non, c'est très bien.
Film de Robert Wise.
Il y a eu un très très mauvais remake avec, je crois que c'était Keanu Reeves.
C'était il n'y a pas longtemps.
Et ouais, je crois qu'il y a un deux. En fait.
Voilà, alors qu'on les croyait hostiles, là, les extraterrestres eh bien, sont porteurs d'un discours de paix. Mais bon, voilà. Quatrième extrait.
Ces crevettes ont enlevé ma femme.
Le terme péjoratif de crevette est réservé aux aliens et il implique évidemment la notion d'un organisme qui se nourrit d'excréments, qui récupère tous les restes.
Vous pouvez pas dire qu'il ressemble pas à ça. C'est exactement ça, il ressemble à des crevettes.
Les aliens ont filé avec une somme dont le montant n'a pas été divulgué. Une personne qui assistait à la scène a été blessée.
Ce qui, pour un alien, peut être perçu comme quelque chose de divertissant, comme mettre le feu à un camion, faire des rallyes à un train, est évidemment pour nous un acte extrêmement malveillant.
Alors, ça a été trouvé, Manu.
District 9 de Neil Blomkamp.
Oui, film de 2009 en même temps qu'Avatar. Et puis, qui nous emmenait cette fois-ci en Afrique du Sud. Allez, dernier extrait.
Ces machines, ces tripodes qu'ils ont, ils les avaient enterrés. Juste là, sous nos pieds. Depuis bien avant qu'il y ait des hommes sur Terre. Ils avaient projeté ça depuis des millions d'années. On est battu à plate couture. Je vous en prie, ma fille, réfléchissez. Ils ont vaincu la plus grande puissance du monde en quelques jours. Ils nous ont anéantis. Et c'est juste les premiers dont ils vont venir. C'est pas une guerre, pas plus qu'il y a de guerre entre les hommes et les vers de terre. C'est une extermination.
Bien vu, donc c'est
La guerre des mondes.
Voilà, film de Steven Spielberg de 2005 avec Tom Cruise qui fait tout pour sauver sa famille. Ainsi s'achève ce blind test et on va vers une tragédie entre tragédie et comédie dans un kibbutz maintenant.
Il n'y
n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Oui, on passe donc à Un Havre de paix de Rona Rosenkier. Alors dans Un Havre de paix, eh bien, on suit les retrouvailles entre trois frères qui sont réunis pour l'enterrement de leur père dans le kibbutz de leur enfant. Alors pour resituer un petit peu, un kibbutz, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les villages qui ont été construits au début du XXe siècle en adhésion avec l'idéologie socialiste et qui reposent sur un mode de vie agricole déjà et communautaire surtout. Et le Havre de paix dont il est question dans le titre, eh bien, c'est précisément ce que trouvent les trois personnages en revenant dans ce village dont le rythme est très éloigné évidemment de celui des villes et dont les habitants vivent quasiment coupés du monde. Alors parmi ces trois frères, eh bien, il y a Avishai qui doit partir faire la guerre à la frontière libanaise. Il y a Yoav qui vient de Tel Aviv et qui voudrait l'empêcher de partir. Et il y a Itai qui lui souhaiterait plutôt l'endurcir pour le préparer à partir se battre. Le film se passe donc en huis clos dans un village isolé de tout et la guerre, elle, reste en fait tout le temps hors champ. On la voit jamais, mais elle est omniprésente, elle est suggérée par des bruitages, elle est évidemment au cœur de toutes les conversations et les tensions au sein de la cellule familiale vont ainsi monter crescendo dans cet environnement qui est déjà très tendu. Alors c'est un premier film plutôt même très autobiographique pour Rona Rosenkier qui est un homme, je le précise. C'est d'ailleurs lui qui joue le rôle principal et ce sont également ses frères qui jouent à ses côtés. Alors moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que le film se voudrait absurde et en fait le plus souvent il est juste malaisant. C'est-à-dire qu'il échoue à être réellement drôle. Par exemple, à un moment, le père donc, qui est décédé a voulu léguer son corps à la science pendant un an avant d'être enterré, ce qui implique que lorsque son corps est rendu à sa famille, c'est sous forme de morceaux dans un sac poubelle. Et ça donne lieu à quelques moments un petit peu glauques, impliquant notamment un nain qui fait des prières devant le sac poubelle. Je vous en dis pas plus, hein, quand même, pour préserver la surprise. Alors, le film a eu pas mal de prix déjà lors de sa carrière en festival. Il a notamment été primé au festival de Locarno et de Jérusalem. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai juste trouvé assez convenu, pas si impertinent en fait, qui veut laisser paraître, surtout dans la façon qu'il a de traiter la relation entre les trois frères. Il y a des scènes assez inventives, assez intelligentes, comme celle où les trois frères s'affrontent au paintball, le paintball faisant office de catharsis, hein. Mais globalement, la narration et l'évolution du scénario sont assez attendues. On sent le climax arriver de très loin. Et puis finalement, les histoires de famille ici s'avèrent assez secondaires. Il y a surtout beaucoup question d'affirmation masculine dans le conflit qui oppose les trois frères. Et le film ne remet pas suffisamment en question, je trouve, ce rapport hyper exacerbé à la virilité. C'est dommage, parce que ça aurait pu apporter un peu de profondeur en plus au film. Voilà, donc je suis un peu mitigée. Une semi-réussite pour moi.
Le film, donc, Un Havre de paix, à ne pas confondre avec un homonyme sorti il y a déjà quelques temps, eh bien, est en salle depuis le 12 juin. Allez, on termine cette émission en parlant d'Alain Delon. Alain Delon qui a reçu la palme d'honneur lors du 72e Festival de Cannes. Une palme qui a fait polémique parce que le personnage n'est pas forcément apprécié. Mais il a quand même fait plusieurs films et il a tenu notamment des rôles marquants. Et tu vas nous en parler un tout petit peu, Manu.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Et notamment, je vais vous en parler pour la reprise d'un grand film italien des années 70, de 72, d'un cinéaste qui s'appelle Valerio Zurlini, Le Professeur. Alors, on connaît Zurlini pour avoir réalisé aussi deux films remarquables qui s'appellent La fille à la valise et surtout Un été violent, où déjà il prenait un acteur français qui était Jean-Louis Trintignant. Cinéaste discret, moins connu que les grands comme Fellini ou Pasolini, mais Zurlini a une carrière assez importante de réalisateur, on va dire, engagé. À la fois, il traite des sentiments humains et à la fois, c'est un cinéaste assez engagé politiquement. Et on retrouve ça dans la ressortie du Professeur, film de 72, avec donc Alain Delon qui joue le rôle, alors c'est peut-être curieux, il joue le rôle d'un professeur d'extrême gauche qui, quelque part, essaye un peu de réveiller les consciences des élèves. Et à la fois, il est désabusé par son métier, il tombe en dépression, dans une Italie en plus, en plein remous avec tout ce qui se passe entre un climat social assez perturbé par les Brigades Rouges. C'est un grand film italien qui prend le pouls d'une époque et qui ressort dans une copie neuve. Et c'est certainement pas en plus le film le plus connu de Delon, donc je le conseille très très fort. Et qui prouve que cet acteur a eu une carrière extrêmement variée et il a joué avec notamment italien, puisqu'il a joué aussi chez Visconti. Il a une carrière il a joué dans Le Guépard, oui. Et Rocco et ses frères également. Donc c'est vraiment un comédien qui a quand même une carrière assez incroyable. Jouer aussi bien avec Lozère, René Clément. Donc pour moi, finalement, la palme d'honneur, elle est au fond méritée.
Même si c'est un connard.
Oui, mais c'est pas le seul acteur. John Wayne était un grand acteur et c'était certainement pas oui, tout sûr. À fait recommandable non plus.
Effet, tout à fait.
Allez, on va faire le bilan des acteurs maintenant. Clint Eastwood. Non. Allez, c'est fini.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on aura au moins deux prénoms, Anna et
Greta, et la porte sans clé aussi.